Kiosque Magazine.
Bon matin, bonjour à tous, bienvenue sur le Kiosque Magazine. Nous sommes le 22 avril 2015.
Ça passe vite.
Il fait gris, couleur pluie, mais aujourd'hui, on vous apporte de la joie. Alors, sur le Canal M, les ondes de Canal M, aujourd'hui, on vous parle de la santé, cuisine et maison. Et je suis en compagnie de Sophie Chevance et Louise Mercier.
Bonjour.
Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Louise?
Aujourd'hui, on va parler de nutrition, lait de Marie-Claude Lortie dans la presse. On a beaucoup de conseils, mais quand tout le monde les écoute, c'est peut-être pas bien. Donc, on va voir. Et aussi, les soins dentaires, on va se faire un petit vrai ou faux et je vais vous demander si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux avant qu'on ait la réponse de l'expert.
Exercice ludique, ça va être le fun.
J'ai entendu que c'était le mois d'avril, c'était le mois dentaire.
Exactement.
Ah, prenons soin de nos dents. Un sourire. Sophie.
De mon côté, Safia, je vous parle côté santé. En fait, il sera question d'un témoignage d'une femme en rémission d'un cancer du sein. Alors, un assez beau témoignage. Et puis, l'intérêt de ce témoignage-là, c'est qu'en fait, c'est non seulement le sien, mais aussi celui de ses proches et de son entourage. Donc, c'est bien intéressant et bien inspirant. Et puis ensuite, côté cuisine, il sera question d'un projet qui a lieu présentement à New York et qui en fait, vise à interpeller la population sur le gaspillage alimentaire. Et toi, Safia?
Eh bien, moi, je vous parle aujourd'hui de vulnérabilité, tant dans le jardin qu'auprès de chez soi, puisque j'ai un article pour refleurir en toute saison et comment faire germer les graines en soi d'estime de soi. Voilà, à tout de suite.
On commence donc avec un article paru dans le coup de pouce du mois de mai 2015, je suis un peu en avance, et l'article en fait en question s'intitule « Tous pour une ». Un article de José Larrivé. En fait, les propos ont été recueillis par José Larrivé. Le cancer frappe un Canadien sur trois. À quoi ressemblerait cette statistique si on comptabilisait vraiment le nombre de gens touchés? Témoignage d'une survivante et de son équipe. Marie-Claude Gagnon, 41 ans, en rémission depuis 4 ans. J'ai reçu un diagnostic à 37 ans, cancer du sein, carcinome lobulaire infiltrant de grade 3, stade 2. Bien sûr, la colère, bien sûr, la peine, la peur, le courage, la lutte. L'espoir aussi, et le désespoir parfois. J'ai 3 enfants, je leur en parle ou pas? Je mets ma famille et mes collègues dans le coup ou je les tiens loin? Ma personnalité m'a dicté la route, j'ai mis tout le monde à contribution. Le cancer n'est pas une expérience souhaitable, mais c'est une aventure d'où surgissent quand même de grandes beautés. Des amitiés qui naissent, fortes, solides, inattendues. Des moments de grâce ou de grande communion, parce que soudain, la vie, c'est tout ce qui importe. J'ai eu envie de partager ce que j'ai appris. Avec l'équipe de soutien Cancer J'écoute de la Société canadienne du cancer, j'ai collaboré à la rédaction d'un guide intitulé « L'enfant et l'adolescent face au cancer d'un parent », destiné à aider toute la famille. Le cancer a changé beaucoup de choses en moi. J'ai mené le combat, mais je n'étais pas seule. Je vous présente donc quelques personnes, parmi ces gens importants, qui ont accepté de raconter comment mon cancer les a touchés. Si vous connaissez quelqu'un qui combat, n'ayez pas peur de la maladie. On ne connaît pas le pouvoir du moindre café latté apporté au bon moment. Frédéric d'abord, conjoint de Marie-Claude. On avait déjà détecté une bosse dans son sein gauche. Le diagnostic n'a pas été un grand choc pour moi. Quand j'y repense, je crois que je m'étais préparée au pire pour me protéger. Ni surpris, ni catastrophée, je me suis mise en mode solution. Marie dirait peut-être que j'ai été à la limite d'être froid en certaines occasions. Je me voyais comme un pilier pour elle et pour les enfants, et mon rôle était d'être un bon pourvoyeur et de rester fort pour les miens. J'ai toujours refusé d'envisager de la perdre. Si bien qu'un soir, lorsqu'elle m'a confié sa peur de mourir, j'ai répondu avec toute ma certitude qu'elle ne mourrait pas. Elle a dû voir ça comme un manque d'empathie. C'était pour moi une manière de survivre et de continuer à travailler, à vaquer, à l'aimer. Parler de ma peine ou de mes peurs aurait signifié leur donner de la place. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Si c'était à refaire, j'essaierais de faire preuve d'un peu plus d'équilibre entre ce que je suis et ce qu'elle avait besoin que je sois. Parfois, la personne malade a besoin d'écoute. Parfois, la solution, c'est simplement une épaule et un signe qu'on a compris ce que l'autre vit. Emma, 15 ans, fille aînée de Marie-Claude. Au début, j'ai eu peur que ça m'arrive, à moi aussi. Ma mère et les tests génétiques qu'elle a passés m'ont rassurée. J'ai peut-être l'air égoïste quand je dis ça, mais je n'ai jamais pensé que ma mère allait mourir. Mon petit frère, lui, a pensé ça, mais pas moi. D'abord, mon quotidien n'est pas devenu tout noir et c'est grâce à l'attitude de ma mère. Elle déployait vraiment beaucoup d'énergie pour que notre vie soit belle, pour qu'on ait du fun, malgré le cancer. Je n'aime pas trop parler du sujet, mais ma mère mérite cet honneur. Elle m'a montré qu'elle savait donner et qu'elle savait recevoir. Les deux sont importants. Pendant la maladie, la famille s'est rapprochée. Je voyais ma mère plus souvent que lorsqu'elle travaille. J'arrivais de l'école et elle était là. Même avec Fred, mon beau-père, c'était plus difficile nous deux, avant. Le cancer, ça te fait voir ce qui est vraiment important. Ça te fait comprendre que la chicane, c'est vraiment inutile. Le temps, ça passe vite et c'est important de faire les choses constructives, des choses qu'on aime. Antoine, 12 ans, fils de Marie-Claude. J'étais très anxieux et j'avais peur que ma mère meure. Qu'est-ce que j'allais faire sans elle ? Pour me rassurer, ma mère a inventé un jeu. La nuit, dans nos rêves, on se donnait rendez-vous au château de Harry Potter. Ça m'aidait à m'endormir. Et ça me permettait de penser que dans nos rêves, rien ne pourrait jamais nous empêcher d'être ensemble. Ma mère a créé un carnet pour aider d'autres parents qui ont le cancer à guider leurs enfants. Ça, c'est généreux. Le cerveau humain devrait fonctionner comme ça de manière automatique. Trouver un bon côté aux mauvaises aventures. Sinon, ça sert à rien de les vivre. Même si j'étais très jeune quand ma mère est devenue malade, je peux dire que le cancer a changé ma vie. Je ne sais pas qui je serais devenue sans lui, mais je sais qui je suis à cause de lui. J'ai appris, par exemple, que les gens, c'est plus important que le matériel et qu'être ensemble, avec ce qu'on aime, c'est plus fort que tout. J'ai aussi appris qu'on ne s'en serait pas sorti si personne n'était venu nous aider, si maman ne s'était pas ouverte à l'aide. Dès que je l'ai su, je l'ai dit à ma prof, à mes amis, puis à toute l'école. J'ai senti l'amour de tout le monde et ça m'a donné de la force. J'ai aussi appris combien ma mère est courageuse. Je suis très fière qu'elle soit ma mère. L'an prochain, on va faire une grande fête pour sa rémission. Martha, ensuite, la mère de Marie-Claude. Pourquoi pas moi ? Ma fille n'avait que 37 ans. Elle avait 3 jeunes enfants. Je me suis sentie désemparée. J'ai lu sur le sujet pour comprendre. Finalement, je me suis laissée guider par ma fille. C'est elle qui était aux commandes. J'ai vu toute sa force se déployer et elle m'a rendue très fière et très admirative. À l'hôpital, elle se promenait avec son porte-document sous le bras et suivait son dossier. J'entends encore le bruit de ses pas dans les corridors, celui d'un soldat au combat. J'ai vite compris que je n'avais besoin de rien d'autre que d'être sa mère et la grand-mère de mes petits-enfants, être aimante, douce, à l'écoute. Ouvrir les portes d'une maison chaleureuse, garder, jouer, bercer, je n'ai jamais été aussi mère et aussi grand-mère que pendant cette maladie. Marie-Claude, dans la période après cancer, nous a rappelé que c'est elle qui a vu le cancer et personne d'autre. Moi, je réponds qu'on l'a peut-être pas eu, ce sacré cancer, mais d'une certaine manière, on l'a eu pareil. Parfois, sa douleur me transperçait le corps. J'en ai passé des nuits blanches, comme elle, et avec elle. J'ai tenu un journal pendant la maladie. Je le relis souvent et ça me fait du bien. À travers nos peurs, celles de la récidive notamment, on oublie les beaux moments. Or, son père et moi témoignons. Il y en a eu beaucoup. La résilience, l'humour, le courage, l'unité, la force de l'amour et la beauté de la vie. On a tous été éveillés à ça, à cause de ce qu'on a traversé ensemble. Il y a eu des instants de grâce qui font du bien à l'âme et qui vaut la peine de se rappeler. On s'est aimé comme jamais et on va continuer. Alors ensuite, de son entourage un peu plus éloigné, quand même très proche aussi, Marie-Hélène, une amie de Marie-Claude, qui dit que dès notre première rencontre, elle a été fascinée par son énergie et sa volonté. Elle se remettait d'une chirurgie. Elle m'a parlé du cancer avec tellement d'aplomb que ça m'a fait un bien immense. À l'époque, j'émergeais du brouillard dans lequel le cancer de mon conjoint nous avait plongés, lui, moi et nos enfants. Au contraire de Marie-Claude, il a choisi le silence et le retrait face à la maladie. Et j'ai respecté ce choix. Je pense que souvent, ces maladies font peur parce qu'elles nous renvoient notre propre mortalité. On a tendance à ne pas s'en approcher de peur qu'elles nous atteignent. Mais pour traverser la vie, avec ce qu'elle a souvent d'absurde, il faut la prendre à bras-le-corps, c'est-à-dire l'embrasser dans son entièreté. La maladie n'est qu'une composante de nos vies. Nos amis malades sont vivants. Il ne faut surtout pas les enfermer dans la maladie. Ensuite, il y a eu également David, autre ami de Marie-Claude. Quand je l'ai appris, ça m'a angoissée. Il dit « C'est cliché, mais j'ai saisi toute l'importance qu'avait Marie-Claude dans ma vie. On s'était connus à l'université, on avait été colocs, on s'était perdu de vue puis retrouvés. On se faisait des bouffes, on avait du fun. Puis, bang, le cancer. Je ne savais pas quoi faire. J'étais un célibataire doctorant, pas de voiture, et quand j'offrais mon aide à une mère de 3 enfants qui a un conjoint, une famille, plein de chums, de filles, je me sentais impuissant. C'est fou de se sentir dépourvu quand tu es en santé devant quelqu'un qui est malade. J'ai vécu avec une conjointe atteinte de sclérose en plaques et j'ai eu un suivi psychologique. Je constate que les gars sont encore dans leur rôle de pourvoyeur. Ils se sentent mauviettes s'ils laissent place à leur désarroi. J'ai milité auprès de Fred pour qu'il aille consulter. C'est dur aussi d'être le chum d'une fille qui souffre. Bizarrement, peu de choses ont changé entre Marie-Claude et moi. Je me sentais souvent coupable car même pendant sa maladie, j'avais du fun chez Marie-Claude. Il y avait de petites parenthèses où tout devenait plus feutré. On parlait du cancer, puis on refermait la parenthèse. Mais ça n'a jamais perdu son côté parté. Cette fille est magnétique. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'est retrouvée aussi bien entourée pendant sa maladie.
La vulnérabilité, c'est un article écrit par Kenza Bénis dans le Elle Québec de mai 2015. Laisser tomber ses défenses, c'est loin d'être un signe de faiblesse. Dans son dernier essai, la réputée chercheuse Brené Brown livre un vibrant plaidoyer en faveur de la vulnérabilité et montre que celle-ci ouvre la voie à l'amour et l'authenticité. Chacun de nous a déjà vécu l'expérience de se sentir plus proche d'un ami ou d'un amoureux après avoir ouvert son cœur. En fait, la vulnérabilité et l'intimité sont étroitement liées, a découvert Brené Brown, professeur de sciences sociales à l'Université de Houston et auteur du « Pouvoir de la vulnérabilité ». Pendant de nombreuses années, elle a étudié la vulnérabilité, un état d'esprit qu'elle définit comme la capacité de prendre des risques affectifs et de faire preuve d'ouverture émotionnelle. Quand cette chercheuse a demandé aux participantes de ses recherches ce que représentait la vulnérabilité pour eux, elle a obtenu des réponses aussi variées que demander de l'aide, avoir une opinion impopulaire, tomber amoureux, prendre l'initiative de faire l'amour avec son conjoint, inscrire sa mère dans un établissement de soins palliatifs. Bien que ces personnes aient évoqué des circonstances différentes, ce qu'elles ont ressenti et identifié comme de la vulnérabilité varie peu. Ainsi, la plupart d'entre elles ont parlé de peur, de courage, de liberté, d'ôter le carcan ou de ne plus prendre soin de soi et de renoncer à contrôler. En effet, il faut du courage pour laisser tomber sa carapace et se mettre à nu devant autrui, sans savoir si on sera accepté tel que l'on est vraiment, avec ses faiblesses et ses défauts. Pourtant, cette ouverture émotionnelle, hélas souvent associée à la faiblesse, est primordiale pour être heureux et vivre pleinement. Selon Brené Brown, les vertus de la vulnérabilité sont d'ailleurs nombreuses. Elles permettent notamment d'entretenir des liens profonds avec les autres et d'être authentique. Donner de la profondeur à ses relations, Brené Brown affirme qu'on ne peut avoir de liens intimes, qu'ils soient amoureux, amicaux ou familiaux, sans faire preuve de vulnérabilité. Aimer jour après jour quelqu'un qui répond ou non à cet amour, qui reste ou part sans préavis, qui se montre loyal jusqu'à la mort ou qui trahit à la première occasion, c'est de la vulnérabilité. Au cours de ses recherches, l'auteur a d'ailleurs découvert que ceux qui forment des couples heureux parlent de leurs besoins, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils désirent. En d'autres mots, ils ont des conversations honnêtes et aimantes fondées sur une grande vulnérabilité. Et c'est cette capacité à ouvrir leur cœur et leur esprit à l'autre qui leur permet d'avoir un sentiment d'intimité et d'être aimés tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Gagner en authenticité. L'autre grande force de la vulnérabilité, c'est qu'elle permet d'être soi-même, malgré les conventions sociales. Dans un des chapitres les plus intéressants de son livre, Brené Brown explique que les hommes et les femmes sont, à divers degrés, prisonniers de normes sociales qui leur dictent leur conduite en fonction de leur sexe. Par exemple, les femmes doivent être minces, modestes, maternelles, alors que les hommes doivent se montrer forts, courageux, capables de maîtriser leurs émotions et affronter le danger. Le hic, c'est qu'on ne répond pas nécessairement à ces normes. Certaines femmes de carrière préfèrent le pouvoir à la modestie. Et bien des hommes souffrent de ne pouvoir exprimer leurs émotions. Selon la chercheuse, certaines personnes prennent la décision de ne pas se soumettre aux normes imposées par la société et courent le risque d'être elles-mêmes. En faisant preuve de vulnérabilité, elles gagnent en authenticité. Apprendre à être vulnérable donc. Pour ceci, trois moyens. Premièrement, surmonter la honte. La honte est une émotion primitive que tout le monde ressent. C'est ce qu'on éprouve, par exemple, quand on s'emporte et qu'on crise après les enfants, qu'on est largué par une femme plus jeune, etc. Dans ces situations, on sent qu'on n'est pas à la hauteur. L'auteur explique que la honte équivaut en fait à la peur de ne pas être aimé tel que l'on est, ce qui représente le plus grand frein à la vulnérabilité. Comment se débarrasser de cette honte, donc ? Selon Brené Brown, qui a consacré à ce thème inusité une dizaine d'années de recherche, il y a trois étapes pour y arriver. Primo, il faut tenter de reconnaître et de comprendre ce qui la déclenche. Secondo, on doit exercer son sens critique. Par exemple, avoir oublié un rendez-vous avec ma mère fait-il de moi une fille indigne ? Tertio, on peut raconter l'événement qui a suscité un sentiment de honte à quelqu'un de proche, dont on a la certitude qu'il sera empathique. La raison de ces confidences ? La personne en question répondra probablement qu'elle a vécu une expérience similaire. Et grâce à son empathie, on réalisera qu'on n'est pas seul à avoir des limites, que c'est profondément humain. Deuxièmement, lutter contre le perfectionnisme. Les gens en quête de perfection sont très sensibles au regard des autres. Ils veulent à tout prix éviter la honte et les reproches. Ils ont donc énormément de difficultés à baisser leur garde et à accepter de montrer leurs faiblesses. À celles et à ceux qui souffrent de perfectionnisme, l'auteur qui a également écrit l'essai de la grâce de l'imperfection conseille d'apprendre à être bienveillant à leur propre égard. La bienveillance, c'est se montrer chaleureux et compréhensif envers soi-même en cas de souffrance, d'échec ou de défaillance, plutôt que d'ignorer sa peine et se flageller. L'objectif est de changer sa façon de voir les choses pour passer de « que vont penser les gens » à « je suis digne d'être aimé tel que je suis ». Enfin, dernier moyen, réapprendre à ressentir des émotions. Brené Brown fait observer qu'on a tous tendance à anesthésier les émotions pénibles. L'anxiété, le stress, la peine, que ce soit en se bourrant de chips, en travaillant beaucoup, en passant de longues heures devant la télé ou Facebook. Le hic, c'est qu'en évitant les émotions qui rendent vulnérables, on atténue aussi toutes les autres expériences comme l'amour, l'empathie, la créativité, l'intimité. En d'autres mots, pour engourdir la souffrance, on se prive aussi de la joie. Intéressant, non ? Surtout dans une société où on apprend, dès le plus jeune âge, à cacher ses peines et à ne montrer aux autres qu'un visage lisse et une humeur joyeuse.
Je cherche des restes de toi dans la chambre froide et dans le piano droit. Je cherche l'écho d'une voix qui disait « Aime-moi ». Je cherche des restes de toi. J'ai caché des morceaux de moi au fond de tes poches, dans ta grande sacoche. J'ai caché des mots maladroits sous la soie de ta peau. J'ai caché des morceaux de moi. Et je me parle tout seul quand je m'ennuie de ma California girl. My California girl. J'ai trouvé des éclats de joie sous le sofa et dans les plis de nos draps. J'ai trouvé des traces de pas dans dans la neige, à la télé. J'ai trouvé des éclats de joie. Et je me saoule la gueule quand je m'ennuie de ma California girl. Ma California girl.
C'était un titre de Philippe B, California Girl.
Oui, ce qui vient bien avec l'article que je vais lire, parce qu'on va parler de la Californie. C'est un texte de Marie-Claude Lortie qui a paru dans la presse Plus du 16 avril dernier. Et on parle de lait et lait. L-A-I-T, L-A-I-T.
Précision.
Oui. Donc, voilà des décennies maintenant, depuis les hippies des années 70 et même avant, qu'on nous dit de manger moins de viande parce que l'élevage du bétail impose une pression écologique démesurée sur la planète. Comme il faut des quantités de végétaux énormes pour produire de la viande, les environnementalistes et les végétariens nous répètent depuis toujours qu'il vaut mieux que ce soit nous qui mangions des végétaux pour aller y chercher les nutriments nécessaires à notre survie. Non seulement c'est une utilisation plus efficace de la biomasse, mais une utilisation plus saine. Il suffit de regarder les chiffres sur l'embonpoint, le diabète, les maladies coronariennes et tutti quanti pour comprendre qu'on mange trop en général et trop de viande en particulier. Et pas besoin d'en rajouter une couche en parlant de la quantité de gaspillage dans l'univers de la boucherie industrielle pour comprendre qu'il y a longtemps qu'on aurait dû se rendre à l'évidence. Vaut mieux manger ce qui pousse dans la terre. Cette logique, toutefois, commence à être à son tour remise en question. De la même façon qu'on nous a demandé de faire presque demi-tour avec le poisson, aliment béni des années 80 et 90, et aujourd'hui dans la ligne de mire des écolos pour cause de surpêche et de pisciculture intensive néfaste, nous devons maintenant commencer à nous poser des questions au sujet de notre consommation végétale. Le secteur qui lance l'alarme? Celui des amandes. Les amandes, on s'entend, sont des noix absolument formidables. Non seulement elles sont délicieuses, mais en plus, elles trônent chez les aliments excellents pour la santé puisque la nature les a remplies de toutes sortes de vitamines et de produits phytochimiques aux vertus multiples. Le hic, c'est que les Américains ont multiplié par 10 leur consommation d'amandes depuis 50 ans et que 80 % de la production mondiale d'amandes provient du même endroit, la Californie. Or, la Californie est au cœur d'une vague de sécheresse désastreuse. Voyons, excusez-moi. Je disais donc, or, la Californie est au cœur d'une vague de sécheresse désastreuse et les amandiers ont besoin d'eau. Selon The Atlantic, qui a publié un grand papier là-dessus l'été dernier, chaque amande a besoin de 4 litres d'eau pour arriver à maturité. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente? Sachant que les Américains sont amoureux fous de ce produit, en commençant par les végétariens et surtout les végétaliens et autres anti-produits laitiers qui utilisent le lait d'amande pour remplacer le lait, de Brooklyn à Seattle, on croit se garder en santé tout en drainant la Californie. Selon un article paru dans Mother Jones, les amandiers californiens utilisent 3,5 milliards de mètres cubes d'eau par année, 3 fois ce que la ville de Los Angeles, avec ses maisons et ses sociétés, consomme. En fait, 10 % de toute l'eau destinée à l'agriculture en Californie s'en va aux amandiers. Or, l'État est à un niveau de sécheresse sans précédent, au point où elle dépasse le niveau maximum des unités de mesure des sécheresses. Avant, la pire des sécheresses était de grade 4. Maintenant, il y a le grade 5. Quand est-ce qu'on va arrêter? L'Amérique est déconcertante. Car comme d'habitude, le problème, ce n'est pas le végétalisme, ce qu'on appelle aussi le véganisme, ou le végétarisme ou la consommation de viande. Le problème, comme toujours, c'est l'industrialisation, c'est l'excès, c'est l'idée de vendre aux consommateurs des solutions miracles qui n'en sont pas. Le lait de vache est mauvais? Buvons tous du lait d'amande. On réfléchira plus tard aux conséquences. Or, évidemment, il y en a des conséquences. Si demain matin, on décidait tous en cœur de manger la pire des mauvaises herbes qu'on a toujours trouvées en abondance et décriées, eh bien, elle aussi serait en péril et un équilibre serait défait. On comprend les Américains de vouloir délaisser le lait industriel, puisqu'aux États-Unis, on permet encore l'utilisation d'hormones de croissance chez les vaches pour stimuler la production. C'est encore légal et il y a plein de gens pour dire que ces hormones produites par Monsanto, notamment, ne posent aucun danger pour les animaux et les humains. Mais bon, on a déjà dit la même chose pour les BCP et la thalidomide, n'est-ce pas? Laissons aux consommateurs le choix du doute. Sauf qu'on sait aussi maintenant qu'il n'y a pas non plus de substitut miracle au lait de vache. Le gros du lait d'amande, vendu en Amérique du Nord, n'est pas exactement produit par des petits artisans. Les multinationales s'y sont mises. Et il y a la sécheresse. Le lait de soya, c'est une des cultures les plus visées par les OGM. Peu importe où on regarde, il y a des signaux d'alarme, des raisons de se remettre en question. Et de plus en plus, d'autres concepts de consommation et d'alimentation écolo-responsables doivent émerger. Vive la modération, la traçabilité, les choix locaux, la lutte contre le gaspillage, comme et quand ça me plaît.
Saviez-vous qu'en 1905, à San Francisco, un garçon de 11 ans se préparait une boisson en utilisant un bâton pour bien mélanger? Distrait, il a oublié dehors au froid pendant la nuit. En 1923, il faisait breveter sa glace gelée sur un bâton, plus tard rebaptisé le Popsicle.
C'est bon, ça!
Bon retour à vous ou bienvenue tout simplement si vous nous rejoignez présentement sur les ondes de Canal M au kiosque magazine consacré à la santé, à la cuisine et à la maison. Autre article donc de Marie-Claude Lortie cette semaine, intitulé cette fois « La vie avant la poubelle », un texte paru dans le journal La Presse le 21 avril 2015. New York, et si on se cuisinait tous des petites pelures d'aubergine pour le lunch avec un solide hamburger de pulpe de légumes rejeté par les extracteurs de jus? Et une petite carcasse de morue noire grillée avec ça? Voilà plus de 2 ans maintenant que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a sonné l'alarme et lancé un appel à tous pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. 2 ans qu'on nous rappelle les mêmes statistiques. Si on pouvait réduire de moitié nos déchets de cuisine, domestiques ou industriels, on pourrait alimenter 1 milliard d'humains. 1 milliard d'estomacs remplis sans imposer de pression supplémentaire à la planète, sans créer une urgence de transformer l'agriculture par les OGM, sans défricher plus de forêts pour de nouvelles plantations industrielles prêtes à vider les sols de leurs nutriments, sans drainer de quantités supplémentaires d'eau du sous-sol de terre déjà aride. Bref, si on pouvait gaspiller moins, on mangerait plus avec ce qu'on a. Et c'est le défi qu'a décidé de relever le chef américain Dan Barber en tenant pendant 2 semaines un projet pilote appelé Wasted, je ne sais pas si je le prononce bien, sous forme de restaurant pop-up à New York. Installé dans son restaurant Blue Hill à la décoration totalement réinventée pour l'occasion, des têtes de céleri rave germées en guise de plantes, des chandelles de suif de bœuf dont on peut manger le gras fondu en y trempant son pain, le Westhead proposait un menu de plats à 15 dollars et du vin servi à partir de Magnum, histoire de réduire l'emballage au minimum. J'y ai mangé du cartilage de raie grillée avec une sauce tartare aromatisée à la tête de poisson fumé, des ailes de lotte, la partie disgracieuse de la tête du poisson, frites façon buffalo wings, très américaine. J'ai dégusté un hamburger confectionné avec toute cette matière de légumes que l'on perd quand on les passe à l'extracteur pour en faire du jus. Aidé de chefs venus chaque jour cuisiner un plat différent, quand j'y suis passée, c'était Brooks Hedley, le pâtissier du grand restaurant italien Del Posto, venu faire des meringues avec les blancs d'œufs dont les jeunes vont à la préparation des pâtes dans son restaurant. Barber a décliné pendant 18 jours toutes sortes de recettes délicieuses préparées à partir d'ingrédients interceptés juste avant leur envoi dans les poubelles. Avant de mettre ses plats au point, il est allé voir ses fournisseurs. « Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi ?» C'est ainsi qu'un squelette de morue noire est devenu un plat exquis à décortiquer au grattoir. « Pouvez-vous croire qu'il y a encore toute cette chair ?» s'est exclamé Barber en montrant à la table comment décortiquer son plat. Ce n'est pas d'hier que le chef Barber se préoccupe de la qualité de l'approvisionnement de ses fourneaux. Il y a une dizaine d'années, suivant les traces d'une philosophie alimentaire diffusée par la grande chef californienne Alice Waters, soit l'idée que la meilleure cuisine est celle faite à partir d'ingrédients très frais, produit naturellement et le plus proche possible de la table, il a ouvert un restaurant appelé Blue Hill à Stone Barn, unique à son époque. Il y poussait en fait un cran plus loin l'approche déjà préconisée à son restaurant Blue Hill du West Village à Manhattan. Barber n'allait y cuisiner qu'avec les ingrédients produits dans sa ferme de Stone Barn, au nord de New York. La pensée de la ferme à la table appliquée à son sens le plus strict. Au début des années 2000, c'était révolutionnaire. Mais au cours des années, ce diplômé en littérature et en cuisine a écrit de nombreux articles dans les journaux américains pour soulever des discussions sur les enjeux alimentaires. Il peut autant sonner l'alarme sur la pisciculture intensive que sur le dépérissement des sols agricoles américains. L'idée de Westhead, affirme Barber, est d'attirer l'attention sur le gaspillage alimentaire, sur la quantité de nourriture que l'on jette sans même avoir essayé de la manger. On pense aux couteaux, ces coquillages dont il fait une salade, qui sont particulièrement friables et rejetés par les pêcheurs et les poissonneries dès que leur coque est un peu abîmée, une source de perte importante. On pense aux croûtes de fromage, comme celle du splendide Arbison de la maison Jasper Hill au Vermont, que la cuisine de Barber transforme en sauce pour des pâtes en trompe-l'œil, qui sont en fait des tiges creuses cuites à denter d'une mauvaise herbe envahissante, la renouée du Japon. Et si les poubelles étaient la prochaine tendance gastronomique, demandait la semaine dernière le magazine Monet en faisant le bilan de l'expérience de Westhead. C'est peut-être le cas. À l'été, l'un des événements phares de la Grande Expo internationale de Milan sera le projet du chef italien Massimo Bottura, qui visera à récupérer la nourriture excédentaire des autres pavillons et de la cuisiner, avec l'aide de collègues étoilés, pour des populations démunies de Milan. Aux États-Unis, la réflexion mérite d'être entamée plus avant que n'importe où ailleurs. Une réflexion sur la grosseur des portions servies dans les restaurants, sur l'à-propos de rapporter à la maison les restants dans les assiettes, une réflexion sur l'habitude de ne pas manger les fruits, les abats, les aliments qui dépassent leur date officielle, mais souvent arbitraire, de péremption. Une petite vinaigrette à l'eau de pois chiche en conserve avec ça ?
bon retour. Alors, comme disait Safia, c'est le mois des soins dentaires. Alors, on va parler aujourd'hui de soins dentaires. Un petit questionnaire de vrai ou faux qui a paru dans la Presse Plus le 21 avril, en fait, hier. Donc, vrai ou faux? Prendre soin de vos dents et de vos gencives a une importance primordiale pour votre santé bucco-dentaire. Plusieurs problèmes buccaux, comme les caries et les maladies des gencives, peuvent en effet être prévenus par de bonnes habitudes d'hygiène dentaire. À l'occasion du mois de la santé bucco-dentaire, testez vos connaissances et trouvez les réponses aux questions sur le sujet. Alors, la première question. Il faut changer sa brosse souvent. Vrai ou faux?
Vrai, je crois que c'est tous les 3 mois, non? Quelque chose comme ça.
Toi, Safia?
Oui, il a changé, c'est sûr. Après, souvent, qu'est-ce que ça veut dire?
Tous les 10 ans?
J'aurais dit, oui, tous les 3 mois, peut-être, un trimestre.
Alors... c'est vrai. Une brosse à dents usée ou effilochée n'est pas efficace. Celle-ci devrait donc être changée environ tous les 3 mois, comme ouais. disait Sophie, ou avant si elle est déformée.
Bravo, bravo. Ah.
Si elle est déformée ou si une couche blanchâtre apparaît au fond. Cela indique la présence de bactéries mélangées au dentifrice, ce qui était très surprenant pour moi. Il faut aussi la remplacer après une forte fièvre ou une maladie contagieuse pour éviter de vous contaminer à nouveau, puisque des micro-organismes peuvent rester sur la brosse à dents.
Ah ouais. Pour l'herpès aussi?
Alors, la deuxième question, vrai ou faux, plus on brosse fort, mieux c'est.
Non, ça c'est faux.
Toi, Safia?
Non, ça fait mal. Ça fait mal aux gencives.
Alors, c'est faux, vous avez raison. Au contraire, un brossage trop fort peut provoquer une usure anormale de l'émail de vos dents. De plus, cela peut abîmer vos gencives et entraîner avec le temps une récession gingivale. Un bon brossage, ce n'est pas un nettoyage vigoureux, mais bien un brossage doux et méticuleux. Pour toutes ces raisons, il est d'ailleurs recommandé d'utiliser de préférence une brosse à dents faite de soie souple pour vous brosser les dents. Alors, la troisième question, il faut passer la soie tous les jours.
Aucune idée. Moi, je ne la passe pas.
Je suis désolée, je ne sais pas c'est quoi la soie dentaire.
La soie dentaire, c'est le fil, pour nettoyer
ça.
Entre les dents.
Alors, j'ai une très belle dentition et je n'ai aucune carie dans la bouche, mais je n'ai jamais utilisé de soie dentaire. Explique-moi ça, Louise.
Alors, tu dois être une exception parce qu'il faut utiliser la soie dentaire. Le brossage permet d'atteindre uniquement 65 % des surfaces dentaires. Donc, la soie dentaire est donc essentielle car elle permet de rejoindre les endroits inaccessibles avec la brosse à dents, tels que l'espace entre les dents. Il est recommandé de la passer une fois par jour, idéalement avant le coucher, pour éliminer la plaque des endroits difficiles à atteindre avec une simple brosse à dents. Ce geste quotidien est d'autant plus important que la plaque ne prend que 24 à 36 heures pour se transformer en tarte. Mais je te dirais, Safia, que la plupart des gens se passent la soie dentaire une journée avant de passer chez le dentiste. Oh. Ils ne le font pas tous les jours.
En tout cas, on a un bon exercice à faire en sortant.
Alors, l'autre question, tous les dentifrices se valent?
Faux.
Safia?
Je ne sais pas, mais je suis toujours troublée par l'ensemble du choix, effectivement.
Alors, c'est vrai et faux. Donc, vous auriez eu raison.
J'imagine qu'il y a comme une base, une base du dentifrice qui est fiable. Après ça, c'est selon
moi,
ce que tu
Moi, j'en change souvent au cas où qu'il y aurait une différence.
Donc, tous les dentifrices renferment sensiblement les mêmes ingrédients de base, comme des abrasifs, des détersifs, des agents liants, des colorants et des agents de conservation. Mais ils contiennent également des agents thérapeutiques pour lutter contre la carie ou le tartre, pour blanchir les dents, pour soulager les dents sensibles, etc., qui, eux, varient d'un produit à l'autre. Le choix d'un dentifrice n'est donc pas identique d'une personne à l'autre, car il dépend des besoins spécifiques à chaque individu. Le mieux est de vous faire conseiller par un professionnel de santé bucco-dentaire, votre hygiéniste dentaire, par exemple, afin d'opter pour le produit qui vous convient le mieux. Il faut visiter son dentiste de façon régulière. Ça, on peut imaginer que ça doit être vrai. Alors, c'est vrai, une visite chez le dentiste, de préférence tous les 6 mois, est recommandée. Le dentiste procédera alors à un examen dentaire complet afin de déceler les problèmes de santé bucco-dentaire dès leur début. Traiter un problème buccal, une carie dentaire par exemple, précocement, est non seulement moins douloureux, mais cela est aussi moins coûteux. De plus, l'hygiéniste en profitera pour effectuer un détartrage afin de débarrasser vos dents de tous les dépôts de tartre. Le nettoyage effectué par l'hygiéniste permettra aussi de polir la face de vos dents pour y freiner l'accumulation de la plaque dentaire.
De vous polir la face, pardon.
Vous avez donc tout à y gagner à consulter régulièrement. Nettoyer sa langue est inutile. Vrai ou faux?
C'est tellement désagréable. Moi j'ai arrêté de faire ça.
Mais j'ai lu récemment que c'était conseillé, effectivement, de le faire.
Moi, je pensais que c'était inutile.
Une fois par mois.
C'est une petite mode, mais c'est faux. C'est utile. Oh. Il est aussi important de nettoyer votre langue que de brosser vos dents. Ce geste réduit considérablement la quantité de bactéries dans la bouche. Les papilles et les crevasses de la langue renferment des cellules mortes, de la plaque dentaire et des débris alimentaires ne pouvant être éliminés que par l'action mécanique d'une brosse à dents ou mieux d'un gratte-langue. Ce dernier est offert en plastique ou en métal dans les pharmacies. Le rince-bouche remplace le brossage.
Non.
Non. Faux. Le rince-bouche n'est pas un substitut de la brosse à dents. Se brosser les dents avec une brosse souple et utiliser de la soie dentaire auront de bien meilleurs effets que le rince-bouche contre la plaque dentaire et les débris alimentaires. Cela dit, combiné au brossage et à la soie dentaire, le rince-bouche contribue à votre hygiène buccale, car il diminue la présence des bactéries dans la bouche, comme pour les dentifrices. Certains rince-bouches vont contenir des ingrédients spécifiques pour réduire la carie, la gingivite, la sensibilité des dents, etc. Il importe aussi de savoir que certains rince-bouches contiennent beaucoup d'alcool, ce qui peut entraîner à long terme un assèchement de la bouche et par conséquent une mauvaise haleine. Donc un peu le contraire de ce qu'on essaie d'atteindre. Dans tous les cas, il est important de suivre le mode d'emploi. Alors la dernière question. Mâcher de la gomme est néfaste?
Non. Ça dépend laquelle. Si c'est une gomme sucrée,
je dirais non, moi je ne le fais pas parce que ça me fait mal au ventre.
Vous êtes bien au courant, mais c'est faux. Bien que cela puisse paraître étonnant, mâcher de la gomme sans sucre est un excellent moyen de protéger vos dents lorsque vous ne pouvez pas les brosser. En stimulant la production de la salive, la gomme à mâcher aide à nettoyer les dents en éliminant en partie les débris alimentaires et en neutralisant les acides formés à partir des sucres consommés au cours du repas. Il est prouvé que mâcher de la gomme sans sucre après les repas aide à réduire le risque de caries dentaires. Si vous n'aimez pas la gomme à mâcher, vous pouvez aussi consommer un morceau de fromage à pâte ferme pour terminer le repas. Je trouve que c'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Cela augmente aussi l'action auto-nettoyante de la salive. Le saviez-vous, une mauvaise santé dentaire peut non seulement causer des caries et des maladies des gencives, mais elle peut aussi porter atteinte à votre état de santé général. Des études scientifiques ont mis en évidence des liens entre des affections buccales et certaines maladies apparemment bien éloignées de la bouche. Par exemple, des recherches ont permis d'établir un rapport entre les maladies parodontales et les maladies cardiovasculaires, ainsi qu'entre les maladies parodontales et les maladies respiratoires. La santé bucco-dentaire ne se résume donc pas à avoir de belles dents. Elle a aussi un impact important sur votre état de santé général.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin. Pour qu'il soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, toi. Nous regarderons pousser les fleurs, les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits. Le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés? Si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs, cet été je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain. J'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Cet été, je ferai un jardin. Cet été, je ferai un jardin.
Nous écoutions Clémence Desrochers avec « Je ferai un jardin » et c'est une chanson qui tombe à pic pour « Mon jardin en 4 saisons ». C'est un article écrit par Jacinthe René dans le « Moi et compagnie » de mai 2015. Voilà. Donc depuis des années, je rêve de m'évader dans un jardin, même en hiver, afin d'y cultiver des fruits et légumes et d'y faire pousser des fleurs. Mon rêve est sur le point de devenir réalité puisque mon jardin d'Éden accueillera bientôt une serre 4 saisons équipée d'un système d'aquaponie. Laissez-moi vous parler de cette nouvelle passion. L'aquaponie, vous connaissez ? Contraction des mots aquaculture, élevage de poissons, et hydroponique, culture des plantes dans de l'eau enrichie en matière minérale. Le mot aquaponie désigne un mode de culture utilisé depuis la nuit des temps dans lequel les déjections des poissons servent d'engrais. De plus, aucun arrosage et désherbage ne sont requis. La serre est entièrement autonome et la croissance des fruits et des légumes biologiques est plus rapide que dans les serres habituelles. Que demander de mieux ? Vraiment, je ne trouve pas. Une belle rencontre. J'ai découvert l'aquaponie grâce à Denis Desrosiers. Avec sa femme, Lynne Boucher, cet ancien électricien se passionne pour le jardinage et rêve de culture hivernale. Intéressé par la philosophie japonaise, il visite souvent des jardins zen et se lance dans la réalisation d'une première serre adaptée à une utilisation 4 saisons. C'est ainsi qu'ils en sont venus à transformer leur cabanon en serre d'aquaponie. Depuis, ils ont fondé les serres Shoji Garden, une entreprise qui conçoit, fabrique et installe des serres d'aquaponie 4 saisons en cèdre. Ils ont eu même une série de 1000 pieds carrés qui leur permet de nourrir leur famille à l'année. Un électricien auparavant, bombardé d'ondes, qui devient un créateur zen et met au point une serre dans laquelle chantent les cacatoès, avouez que c'est une belle histoire inspirante. Une serre de 5 pieds 7 pieds coûte moins de $3000. En revanche, cela permet ensuite d'économiser à l'épicerie. Et pourquoi ne pas partager la serre entre voisins à la campagne ? De plus, elle est parfaite pour des unités de condos en ville. L'autonomie alimentaire, le jardin d'Éden, fondationeden.com, recevra sa serre au mois de mai. Vous le savez, je suis plutôt anti-performance. Grâce à cette serre, j'ai simplement envie d'offrir aux enfants un endroit d'apprentissage où ils se transformeront en jardiniers amateurs et pourront faire des essais, des erreurs et s'amuser. J'y ferai pousser des citrons, du kaël, de la laitue, des poivrons et une foule d'autres fruits et légumes que j'utilise dans mes plats et mes jus. Et je planterai assurément un bananier. Oui, oui, un bananier. J'applique déjà les principes de la permaculture, l'art de développer une forêt nourricière et autonome. Bref, chez moi, je plante des choses pour me nourrir. Par exemple, j'ai une haie de mûrier, une vigne de kiwi, des plates-bandes comestibles et des parterres de fines herbes. Et grâce à la serre d'aquaponie, j'espère explorer encore plus le concept d'autonomie alimentaire. Je vous en redonne des nouvelles bientôt. L'estime de soi, mode d'emploi. C'est un article écrit par Aurore Aimelet dans le Elle Québec de mai 2015 qui s'intitule L'estime de soi, mode d'emploi. Dans S'aimer même quand on est bourré de complexes, chez Solar, la journaliste Aurore Aimelet donne les 5 idées pour mieux accepter son corps. En voici 5. Premièrement, arrêtez de vous juger. Si vous êtes de celles qui portent des jugements sans appel sur leur physique, « je suis horrible quand je porte une robe », essayez d'avoir plus de bienveillance à votre égard. Une bonne façon de cultiver cette indulgence, lorsque vous parlez de vous-même, bannissez les formules généralisatrices. « Je suis jamais bien coiffée », celles qui sont négatives, « je ne suis pas assez jolie » ou « exigeante », « il faut que je perde 5 kilos » et « dramatique, je déteste mon ventre ». Enfin, misez sur vos atouts pour vous accepter tel que vous êtes. Mettez l'accent sur vos points forts, de beaux yeux, une jolie nuque, au lieu de vous attarder à ce que vous aimez moins. Votre regard sur vous-même et votre confiance en gagnera. Troisième idée, ne vous comparez pas. Il n'y a rien de plus anxiogène que de se comparer aux autres. Pour vous sentir mieux, la solution est de cultiver votre singularité. Je suis rouge, je suis généreuse. Au lieu de vous définir par ce que vous n'êtes pas, je ne suis pas assez grande, pas assez patiente, réfléchissez à ce qui vous rend unique et définissez vos valeurs, vos qualités, vos fragilités. Vous vous rendrez alors compte que vous avez votre propre personnalité et que vous êtes bien plus qu'une image. Quatrièmement, revisitez votre passé. Les complexes physiques sont souvent de pair avec un manque d'assurance générale. En comprenant d'où viennent les blessures, une mère qui vous a peu valorisé, une séparation douloureuse, vous pourrez les relativiser. Dernier moyen, renouer avec votre sensorialité. Il est difficile de se réconcilier avec son corps quand on est coupé de lui. Pour vous réapproprier le vôtre, pourquoi n'utilisez-vous pas vos 5 sens ? Prenez le temps de goûter, de sentir, de toucher, d'écouter, de regarder pleinement. Pratiquez des activités sensorielles agréables. Dessiner, danser, faire des dégustations. Votre corps sera ainsi associé à des plaisirs et aura plus de valeur à vos yeux. L'application Méditer avec Christophe André. Cette application vous permet d'apprendre à pratiquer la méditation de pleine conscience grâce aux conseils de Christophe André, psychiatre et spécialiste français de la méditation de pleine conscience. Il propose des méditations guidées et explique les principes de cette pratique qui vise à s'ancrer dans l'instant présent. Cette application nous donne aussi accès à des conseils, des jeux questionnaires et à des séances audio de méditation de pleine conscience dont la durée varie de 3 à 10 minutes. Ce qu'on en a pensé, on a adoré. L'application nous apprend efficacement ce qu'est la méditation de pleine conscience et ses nombreux bienfaits et nous permet de la pratiquer partout. Bref, il s'agit d'un coaching guidé complet. Le hic, on aurait aimé la découvrir bien avant.
«
Notre émission touche déjà à sa fin et le temps est venu de nous dire au revoir. Dans mon cas, ça va être un vrai au revoir parce que malheureusement, je ne pourrai pas rester pour les prochaines semaines au Kiosque Magazine. Alors, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie pendant les dernières semaines. Si vous voulez nous appeler pour des commentaires, vous pouvez en fait nous rejoindre au 1-800-361-0635 poste 220 ou bien nous écrire à l'adresse courriel canalm@vusevoix.com. Merci donc à toute l'équipe, à Jean-Sébastien Laliberté pour sa mise en onde et ses choix musicaux toujours appropriés. Et prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.